C'est un privilège encore ce matin de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. L'apôtre Paul a dit, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais on voit dans le texte qu'on va voir ce matin, dans le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 8, on voit que l'apôtre Paul était obligé de donner des avertissements, de reprendre, parce qu'il y a des endroits où la vérité était massacrée, si on peut dire, parce que il y a le père du mensonge qui ne veut pas qu'on marche dans la vérité, qui ne veut pas que la vérité soit enseignée. Alors, ce matin, on va voir ça, qu'on a besoin parfois de dénoncer des personnes qui ne marchent pas dans la vérité. Alors, courbez-vous avec moi, on va remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur, puis on va lire notre texte. Commencer. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ce privilège qu'on a de t'appartenir. Merci parce que tu nous as donné... ta parole, Seigneur, quel cadeau, quel privilège, Seigneur Dieu, tu nous l'as donné, mais aussi tu nous as donné la responsabilité qui vient avec de la préserver, Seigneur, de la communiquer, Seigneur, à ceux qui nous suivent, de la communiquer à ceux qui sont autour de nous, Seigneur Dieu. Et on a besoin pour ça, Seigneur Dieu, de marcher dans la vérité, de s'attacher à ta parole, de s'attacher à la vérité. Guide-nous dans ta parole ce matin, parle à nos cœurs et instruis-nous, on te demande au nom de Jésus. Amen. Alors, l'épître de Paul aux Colossiens, c'est la page 184.
Ça dépend de la vie.
Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les principes élémentaires du monde, dans vos versions, peut-être c'est sur les rudiments du monde, les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez autrefois par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ses préceptes, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul écrit ici aux Colossiens aux croyants de Colosse pour les protéger contre les faux docteurs, les faux enseignants. Ces faux enseignants-là qui mêlaient la philosophie du légalisme judaïque et du mysticisme à la croix de Christ. Alors, il y avait des restants de la loi juive, mais de la philosophie, c'est le gnosticisme, c'est une philosophie qui disait qu'il y a des personnes qui savaient des choses que le commun des mortels ne savait pas. Il y avait des connaissances plus. C'est des chrétiens de catégorie A+. Ils savaient des choses que les autres ne savaient pas. Puis aussi du mysticisme, des règles religieuses. On va préciser ça. Le mysticisme, c'est chercher une relation intime avec Dieu. Alors, eux autres, ils étaient plus connectés avec Dieu que les autres. Verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne vous ne fasse sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Il y a deux mots dans ça qui savoir c'est quoi. Premièrement, être une proie, c'est quoi? C'est des définitions de dictionnaire, mais c'est un être vivant dont un animal s'empare pour le dévorer. Une proie, c'est ça. Un lynx qui a une proie, sa proie préférée, c'est le lièvre. Il attrape le lièvre pour le dévorer. C'est un bien dont on s'empare par la force. Quand on est une proie, d'habitude, c'est pas un bien bon signe. On s'empare par la force. Une personne que l'on dépouille. Si vous êtes la proie de quelqu'un dans un domaine quelconque de votre vie, la personne de qui vous êtes la proie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut vous dépouiller. Puis la vaine tromperie, c'est le mot séduire. Séduire, ça veut dire amener à soi, ça veut dire attirer fortement, charmer ou plaire à quelqu'un. Mais plaire, pas dans le sens positif, dans le sens négatif. Le terme englobe l'action d'envoûter, de conquérir et même d'égarer. Alors, ces personnes-là, ils veulent attirer les chrétiens à leur cause, plutôt que de les attirer à Christ. Donc, prenez garde à ça que personne ne fasse de vous sa foi. On va voir c'est quoi la philosophie premièrement. Le gnosticisme, c'est le salut qui vient d'une conscience secrète réservée à quelques initiés, à une élite. C'était ça qui se passait dans l'église de Colosse. Il y avait des gens qui avaient des connaissances qui étaient secrètes. C'est juste eux autres qui avaient cette révélation-là. Puis, ils s'accordaient un rang supérieur à cause de ça. Il y avait aussi du relativisme, ça, c'est le relativisme. On voit ça encore beaucoup aujourd'hui. C'est si c'est bon pour toi, c'est parfait. Moi, c'est pas ça, c'est d'autres choses, puis c'est bon pour moi. Alors, il n'y a pas de vérité. La vérité est relative. Alors, la parole de Dieu, c'est pas relatif. La parole de Dieu, quand elle dit blanc, c'est blanc. Puis, il y a toutes sortes d'autres philosophies, des recettes pour le développement personnel. Quand la croix n'est pas au centre de nos convictions, de notre vie, c'est la religion. Puis ici, ben, c'était ça qui était question. Et au verset 9, 2 Colossiens chapitre 2, verset 9, il nous dit que Jésus, il est suffisant. Puis il va nous dire pourquoi il nous dit que Jésus est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors Jésus, il n'y a pas seulement un homme qui a des attributs de Dieu, mais il est pleinement Dieu. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un maître, ce n'est pas un guide, ce n'est pas un modèle, on entend ça souvent. Il est pleinement Dieu. Comme on peut voir dans Matthieu, verset 1, chapitre 1, 23, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Alors, Jésus est pleinement Dieu. Et on a plusieurs passages qui nous parlent de ça, qui nous révèlent ça. Et dans Jean 1, 14, on peut lire ce qui suit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, on voit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, quand il parle de la parole, on sait que c'est, il parle de Jésus. Et on est rendu sur Jean, chapitre 20, verset 28, lorsque Jésus est apparu une deuxième fois à ses disciples, puis que cette fois-là, Thomas était présent, Jésus lui a dit à Thomas, il dit, « Avance, mets ton doigt dans les trous dans mes mains. Avance ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais quoi? » Et qu'est-ce que Thomas a répondu? Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, pour Thomas, pour les disciples, le Seigneur Jésus, c'est Dieu, c'est incarné. Dans Romains au chapitre 9, le verset 5, il dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. » Alors, Dieu, il parle de Christ, il dit qu'il est au-dessus de toutes choses. Alors, ça peut être un homme qui est au-dessus de toutes choses? Je ne pense pas. Là, il dit, « Dieu bénit éternellement. » Alors, Christ, c'est Dieu fait chair. Et dans Tite, au chapitre 2, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit à la fin de cet écrit-là, il dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » La manifestation de Dieu, on sait que quand le Seigneur va venir, c'est pas Dieu le Père qui va venir, c'est Christ qui va venir, puis il dit, c'est la manifestation de Dieu, de notre grand Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça dit que Jésus est Dieu. Et finalement, dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle de la supériorité du Seigneur Jésus, puis il dit, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Alors, Jésus, il est suffisant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Une autre raison pour laquelle on peut dire ça, que Jésus est Dieu, c'est parce qu'il possède des attributs de Dieu aussi. On voit que dans Jean 8, 58, on voit qu'il est éternel. Parce que dans Jean 8, 58, il va reprendre quelque chose qu'on voit dans Exode 3, 14. Il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Quand on compare ça avec Exode 3, 14, Exode 3, 14, c'est lorsque Dieu a voulu envoyer Moïse vers le peuple pour le guider. Puis Moïse, il a dit, « Ils ne croiront pas. » Puis Dieu leur a dit à Moïse, « Tu leur diras, je suis celui qui suis, c'est lui qui m'envoie, c'est le je suis qui m'envoie, c'est l'éternel. » Alors, quand Jésus, dans Jean 8, 58, il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis, ça veut dire l'éternel. Avant qu'Abraham fût, je suis l'éternel. » Il est créateur. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, par la parole, on a vu que la parole, c'était Jésus. Toutes choses ont été faites par elle. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17 et 17. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors là, je vous abrège un petit peu des versets. Il est immuable. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Y a-t-il quelqu'un ici qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Les cheveux, me semble, ils sont plus la même couleur qu'ils étaient. Il me semble que. Il y a des affaires qui ont changé. C'est-tu fini? Non, demain, ça va être encore d'autres choses. Jésus, il est immuable, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est Dieu. Et, verset 10, chapitre Colossiens 2, verset 10, il continue, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Alors, il n'y a personne au-dessus de Jésus. Mais encore aujourd'hui, comme c'était à cette époque-là, il y a des mondes qui pensent que Christ ne suffit pas, c'est passé. Ça prend quelque chose. On ajoute des règles. On va voir des versets dans quelques instants qui parlent de ça. Des règles, des expériences spirituelles, des pratiques religieuses. Par exemple, l'évangile de la prospérité, ça en est un exemple. Des nouvelles philosophies modernes. Je vais juste la regarder sur Internet, vous allez en avoir en masse. Alors, Paul y affirme que tout est accompli en Christ. On a tout pleinement en lui. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Nous manquons de rien. C'est la clé de ce passage-là. C'est la clé de l'épître de Paul aux Colossiens. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Il n'y a pas de niveau spirituel supérieur. Il n'y a pas des chrétiens qui sont des catégories ordinaires puis des catégories A+. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit puis on a tout pleinement en lui. Il n'y a pas de baptême additionnel. Un baptême du Saint-Esprit, par exemple, additionnel. Oui, il y a des dons spirituels, mais il n'y a pas un baptême quelconque qui nous rend, qui nous fait changer de catégorie pour aller à une catégorie supérieure. Il n'y a pas de révélation cachée additionnelle ou de complément mystique. Il n'y a pas de personne qui nous arrive avec des nouvelles révélations. On voit qu'il y a beaucoup de sectes. Que, oui, ils ont l'Évangile, oui, c'est l'Évangile, mais en 1800 quelque chose, il y en a un qui a eu une telle révélation. Il y a plusieurs sectes qui sont comme ça. L'Évangile tel que Paul la présente dans 1 Corinthiens 15, seulement cet Évangile-là, la croix seule, on va voir ça dans quelques minutes. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, concernant le Saint-Esprit, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On le reçoit quand on croit, quand on a cru à l'évangile. Vous avez cru, vous avez été scellés. Scellé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met un cadenas. On parlait de ça avec Pascal cette semaine. Quand il va dans les installations électriques, il faut qu'il mette un cadenas pour être sûr qu'il n'y a personne qui va remettre le courant pendant qu'il est après joué dans les fils. Ça, c'est un sceau pour empêcher que personne touche à ça. Les rois, quand il y avait une lettre envoyée, il coulait le cachet de la cire, puis il mettait le sceau. Puis ça, si le sceau était brisé, quand la lettre arrivait à destination, c'était signe que ça avait été ouvert. Quand c'est scellé, on ne peut pas rien rajouter. Si vous avez une lettre qui est scellée, vous avez fini de l'écrire, vous la cachetez, vous la fermez, puis que vous rappelez qu'il y a quelque chose qui est trop tard. Il faut briser le sceau si vous voulez la construire. Encore au sujet du Saint-Esprit, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit ceci. Alors ici, c'est clair, si vous n'avez pas été convaincu par Éphésiens 1,13, ici, L'apôtre Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on croit, on est scellé du Saint-Esprit. Si ça, c'est pas, si on n'est pas scellé du Saint-Esprit, c'est parce qu'on n'appartient pas à Dieu. Il n'y a pas de révélation additionnelle. La foi en l'Évangile seul. Et l'apôtre Paul, il explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. C'est un passage de... un de mes passages préférés pour partager l'Évangile. Il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors, il dit, si vous avez reçu l'Évangile, puis que vous l'avez retenu tel que je vous l'ai annoncé, bien, vous êtes sauvés, vous appartenez au Seigneur. Mais si vous ne l'avez pas retenu, si vous avez cru, mais ce n'était pas sérieux, vous n'avez pas retenu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous, autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire quoi, cru en vain? Ça veut dire que vous avez cru, puis ça ne donne rien. Vous avez cru, mais c'est dans le vide. Vous n'avez pas cru la bonne affaire, vous avez passé à côté de... Verset 3 et 4, là, il dit, il explique c'est quoi l'Évangile. Je vous ai enseigné avant toute chose. Avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La première chose, Christ est mort pour nos péchés. Pas seulement pour nos péchés, Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Ça, c'est la première chose qu'on a besoin de savoir dans la foi. Je suis pécheur, puis il y a une conséquence, c'est la mort. Puis cette mort-là, Christ l'a subi à ma place. Verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est ressuscité, puis en ressuscitant, il donne la vie aussi, on va le voir plus loin. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Alors ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. On revient à Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Il dit, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Ça vient compléter ce qu'on vient de dire précédemment. Dieu l'a ressuscité, puis il nous a ressuscité avec lui. Jésus nous a transformés. Ce n'est pas une circoncision dans la chair, une circoncision extérieure, mais c'est une transformation intérieure, c'est la circoncision du cœur. Notre vie passée, notre vie selon la chair, dépouillée, ensevelie. Il dit ensevelie par le baptême. On ne la voit plus. C'est complètement immergé sous l'eau. La vie ancienne est disparue. Maintenant, ce qui prédomine, c'est ce qui est dans le cœur. C'est une nouvelle vie, une nouvelle résurrection. Tout comme Dieu a ressuscité Christ, Dieu nous a ressuscité avec lui. C'est ce qu'il dit dans le verset-là. Il nous a ressuscité spirituellement. Et cette nouvelle vie-là, savez-vous quoi? Elle est éternelle. On voit ça dans Jean 3, 16, entre autres. Cette nouvelle vie-là commence quand? Dès la conversion. Dès la conversion. Pour être converti, ça prend l'action du Saint-Esprit. Puis quand on se convertit, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on confesse nos péchés, qu'on regrette le péché, qu'on réalise qu'est-ce que ça amène, où ça nous mène le péché, puis qu'on réalise comment ça se fait qu'on est épargné du péché, quand on réalise que Christ a payé à notre place, cette nouvelle, la nouvelle vie commence à ce moment-là. Dès la conversion, vous avez tout pleinement en lui. Dès la conversion, oui, vous avez besoin de grandir spirituellement, de sanctification, mais vous avez tout ce qui est nécessaire à l'apôtre Paul dit ailleurs, à la croissance spirituelle. Vous êtes une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, à partir de la conversion, vous êtes une nouvelle créature. Colossiens 2, verset 13. « Dites-vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Ici, c'est drôle qu'il y ait un terme qu'on ne voit pas tellement souvent, l'incirconcision. D'habitude, c'est le contraire qu'on voit, la circoncision. L'incirconcision dit « Nous étions morts. » Pour être sauvés, il faut réaliser qu'on est mort spirituellement. Notre état de pécheur fait que nous sommes morts spirituellement. C'est la conséquence du péché. Alors, il a guéri nos cœurs, il nous a rendus à la vie, il nous a graciés de nos péchés, il nous a fait grâce. L'incirconcision de notre chair, il dit ça aux Colossiens. Puis les Colossiens, on sait, c'était principalement des païens d'origine grecque, d'origine païenne. Dans le judaïsme, la circoncision, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'était la marque de l'appartenance au peuple de Dieu. Encore aujourd'hui, les Juifs se font circoncire. Pendant la guerre, lorsque les Allemands chassaient les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir si un tel était juif ou ne l'était pas? C'était pas compliqué, ils faisaient baisser les culottes. C'était bien simple. Si vous n'étiez pas circoncis, bien c'est parce que vous étiez en dehors de l'alliance, vous étiez étranger aux promesses, sans relation avec Dieu. Alors, l'apôtre Paul, ici, il parle de l'ancienne condition spirituelle des païens, ils étaient étrangers aux alliances. Alors, l'incirconcision de votre chair. Il ne dirait pas ça à des Juifs, parce que les Juifs, ils sont circoncis dans la chair. Alors, les Colossiens, ethniquement et religieusement, c'était mix. Il y avait surtout des païens d'origine grecque, comme je viens de vous le dire. Eux autres, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ben, il y avait plusieurs dieux. Ils rendaient des cultes à différentes puissances, différents esprits. Mais ils étaient très religieux. Ils étaient sensibles aux choses spirituelles, même si c'était des fausses notions spirituelles. Alors, il y avait cette communauté-là de païennes, mais aussi, il y avait une forte communauté juive. Je vous mets juste une petite parenthèse ici, parce que comment ça se fait qu'il y avait des juifs comme ça à Colosse dans ces années-là? L'épître de Paul au Colosse a été écrit en 60-62 environ. On sait qu'en 71, 72, 73, les juifs ont fui Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la persécution. Si vous avez déjà écouté le film genre Spartacus, où on voit les chrétiens se faire crucifier, là, ça se passe en 71, 72 et 73 dans ces années-là, alors qu'il y a une grande persécution en Palestine. Mais là, Colossiens est écrit en 60-62, comment ça se fait qu'il y a des juifs tant que ça à Colosse? Bien, c'est parce que Cyrus qui a régné, un Perse qui a régné entre 538 et 300 quelque chose là, avant Jésus-Christ, il a permis aux Juifs, à des Juifs, premièrement, il leur a permis de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple, puis il leur a permis aussi, pas seulement permis, mais il a envoyer des communautés juives un peu partout dans son royaume parce que les Juifs étaient quand même pas sympathisants, mais ils étaient collaborés, ils étaient loyaux à Cyrus. puis qui avait quand même une certaine bonté envers lui. Je vous parle de ça parce que on est capable de recouper ces notions-là que les historiens séculiers nous racontent. On est capable de recouper ça avec le livre de Néhémie et d'Esdras. Alors, finalement, pour faire une histoire courte, la raison pour laquelle il y avait des Juifs à Colosse, c'est parce que Cyrus a permis à ces Juifs-là d'aller à cet endroit-là. On revient à Colossiens, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce qu'il raconte là? L'acte dont les ordonnances. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Bon, je vais vous en lire un acte de condamnation. Monsieur Paul Juguère, vous comparaissez devant moi ce matin, car de graves accusations pèsent contre vous. Vous êtes accusé de lâcheté, d'incrédulité, d'abomination, de meurtre, de débauche, de magie, de l'entrée, de mensonge. C'est Apocalypse 21:8. C'est le verset par lequel je me suis converti. J'ai moi-même été témoin de tous ces crimes. Vous êtes passible de souffrance éternelle dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors, il dit, il a effacé l'acte de condamnation. C'est ça, un acte de condamnation. Tu es accusé de ça. Puis, pour savoir que tu es accusé, tu es coupable de ça. Puis, tu mérites la condamnation. Mais cet acte de condamnation-là, ce papier-là, qui certifie que tu es accusé puis que tu es coupable, il l'a pris, puis il l'a détruit à la croix de Christ, à la croix du calvaire. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. À la croix, les puissances sataniques ont été vaincues. Satan et ses anges déchus ont été vaincus. Ils n'ont plus le pouvoir d'entraîner les enfants de Dieu à leur suite. Oui, ils sont encore à l'œuvre, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous enlever votre salut. Ils n'ont pas le pouvoir de vous entraîner avec vous, avec lui. Dans Jean 10, verset 17, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples annoncer l'Évangile, des 70 disciples, puis ils reviennent avec joie. « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Puis Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme des éclairs. » La croix de Christ, l'Évangile, le salut annoncé, qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a chassé les démons de la présence de Dieu. Versets 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. » Bon, là, il va nous donner un peu de détails sur c'est quoi les problèmes qu'il y avait dans l'église de Colosse. « Que personne ne vous juge. » Alors, les règles alimentaires, les fêtes, le sabbat, autrement dit, c'est la loi. L'apôtre Paul dit « C'était l'ombre. » C'est l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. La loi, c'est un pédagogue, on voit ailleurs, pour nous conduire à Christ. L'ombre d'une chose, c'est différent de la chose elle-même. Si vous vous mettez à l'abri de votre maison, à l'ombre de votre maison, l'été, quand il fait 30 degrés, vous allez éprouver un peu de fraîcheur. Mais si vous faites la même chose à 30 en bas de zéro, c'est pas tellement utile. C'est de ça qui parle. L'ombre, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Les rites religieux, c'était l'ombre, le sacerdoce, le système sacrificiel. Les observances concernant le sabbat ne sont d'aucune utilité pour le salut. Que personne donc ne vous juge à ce sujet, ni au sujet des autres libertés qu'on a en Christ. En Christ, on a la liberté. On n'a pas la liberté de pécher. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut marcher dans la vérité. Mais à l'intérieur de la vérité de Dieu, à l'intérieur de la vérité de la parole de Dieu, On a toutes les libertés en Christ. Alors, c'est la même chose pour les nombreuses règles alimentaires. Pendant longtemps, on ne mangeait pas de viande le vendredi. Mais le vendredi, on mangeait juste du poisson. C'était supposément méritoire auprès de Dieu. C'est pas vrai. La loi, c'est l'ombre. La réalité, c'est Christ. La réalité, c'est la croix de Christ. C'est ça, la réalité de nos vies, de notre vie chrétienne, c'est la croix de Christ. C'est grâce à la croix de Christ. Versets 18 et 19, il faut que j'accélère un peu parce que qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte de dégénérescence ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Alors, les faux enseignants, ils ne se présentent pas à nous comme tels. Tu sais, bonjour, je suis un faux enseignant. Aujourd'hui, je vais vous parler. Non. Ils se présentent à nous avec une apparence en nous. Le Seigneur Jésus, il leur dit, il les traite de loups déguisés en brebis. Il dit, ça donne à des visions. Ils ont une nouvelle révélation que nous autres, les simples croyants, là, les catégories ordinaires, là, on n'a pas. Non, le problème, l'apôtre Paul leur dit ici, le problème, ça relève de l'orgueil puis des pensées charnelles. La croyance spirituelle est dans le corps de Christ qui nous dit, le verset 19. C'est-à-dire, le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. Il dit, la croissance spirituelle, c'est dans l'Église, lorsque l'Église reste unie, solidement unie par l'amour, en Christ, attaché à son chef, Christ. Toute spiritualité qui ne souscrit pas à l'attachement à Christ, c'est dangereux, parce que souvent, la croissance n'est pas. Alors, il parle de mysticisme, adoration des anges, des visions, la fausse humilité. Juste pour vous dire, au sujet des visions, les personnages dans les Saintes Écritures qui ont eu des visions, c'est mentionné comme tel, Abraham, Jacob, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre, Jean, Ananias. Alors, ceux qui viennent à nous, qui ont eu des visions, on en connaît, il y en a eu dans l'histoire, une vision de la Vierge, une vision de Dieu qui leur a dit telle, telle chose. Alors, ceux qui ont des visions, ils se comparent à ces personnages-là. Puis, ils comparent leur situation à la situation qui a eu lieu quand ces personnages-là ont eu leur vision. Ça me laisse douter un peu. Versets 21 et 22. « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vue et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai juste un petit peu à donner des exemples, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ou Paul a dit ceci ou cela dans tel livre. Prendre des versets bibliques, les dormes. On peut aller en deçà des Écritures, c'est-à-dire de ne pas se rendre à la croix, de prêcher. Mais de ne pas se rendre à la croix, de prêcher les bonnes œuvres, de prêcher l'amour, mais de s'arrêter là, de ne pas prêcher Christ. Ça, c'est de la religion. Si vous prêchez, puis que ça, la croix de Christ ne fait pas partie de votre prédication, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est de la religion. Mais aussi, il y a aller au-delà des Écritures. C'est les Écritures plus. Ça, c'est du dogmatisme. C'est de faire dire aux Écritures, parfois, rajouter des choses pour faire dire aux Écritures des choses qui ne disent pas. Dans Galates, chapitre 2, verset 3 à 5, l'apôtre Paul a fait face à une situation dans ce genre-là. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Alors, l'apôtre Paul, il est prise avec ça. Si je me souviens bien, c'est il est à Jérusalem, puis il s'est posé des questions parce qu'il s'était associé avec Tite, dont le père était grec, si je me souviens bien. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, il dit, demeurez dans Galates chapitre 5, il donne la réponse. C'est quoi qu'il faut faire avec ça? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous autres, ici au Québec, on sait c'est quoi le joug de la servitude? Notre ancienne religion, nous garde le caper sous le joug de la servitude. Quand vous êtes chrétien, vous êtes converti, n'allez pas tomber dans un nouveau joug de servitude. Puis malheureusement, dans des milieux chrétiens, certains milieux, on voit ça. Et l'apôtre Paul, il finit au verset 23, il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Faites attention aux apparences extérieures. L'apparence de sagesse, l'apparence de piété. Les personnes qui sont éloquentes, et on y a vu un gars matin, il a dit qu'il parlait haut, oh, il parlait bien. Attention à ça. Ceux qui s'imposent une discipline extérieure, des interdits. Des interdits. Oui, on peut avoir des convictions qui vont au-delà des Écritures. Ce n'est pas nécessairement péché. Par exemple, je peux décider que je viens dimanche matin en veston en cravate. Je peux m'imposer cette discipline-là. Mais ça, ça n'a aucune espèce de mérite pour le salut, pour la sanctification. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Si je veux imposer ça aux autres, ça devient du dogmatisme. Justement. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je porte sur moi, mais c'est ce que je porte en moi. Ce que je porte en moi, je suis le temple du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous dit. On a le privilège d'être en communion avec le Dieu de l'univers, le roi des rois. Donc, en conclusion, l'apôtre Paul nous met en garde contre la philosophie, le légalisme religieux, la spiritualité sans Christ. La connaissance de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel est suffisante. Vous avez tout pleinement en lui. Si vous avez des difficultés dans votre vie, dans vos vies, il ne faut pas chercher ailleurs que dans le Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire soigner quand on est malade, mais en général, la solution pour nos vies, c'est Christ. Puis la connaissance des Saintes Écritures nous protège contre ça, les philosophies. Lisez les Écritures, puis méditez-les. Rester attaché aux Saintes Écritures nous protège des pratiques extérieures qui ne sont que religieuses. La véritable spiritualité, c'est dans le cœur. La véritable spiritualité, c'est dans notre relation avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, comme on a vu dans 1 Corinthiens 15, il nous explique c'est quoi l'Évangile, rester attaché à l'Évangile. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Puis on a besoin, l'Église est attaquée, la vérité est attaquée par l'adversaire, le père du mensonge. On a besoin de rester attaché aux Saintes Écritures pour demeurer en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.